This podcast is brought to you by I'mPolyglot.com. If you want to learn French, English, or Spanish, please visit I'mPolyglot.com. Eh bien, salut à tous, on est de retour sur le podcast I'm Polyglot. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui, on va répondre à une autre question de Paola. Paola, en fait, on avait déjà parlé d'elle. Elle m'avait posé quelques questions il y a 2 semaines et j'avais déjà fait un épisode pour répondre à une partie de ces questions. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à une question qui m'a été posée par plusieurs personnes et qui a été soulignée par Paola. Et cette question, c'est comment faire pour passer d'un niveau intermédiaire à un niveau avancé. Et le complément de la question, c'est est-ce que c'est possible de le faire tout seul, sans prendre de cours particuliers ou de classes particulières? Et j'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Donc, prenez un café, prenez un thé, et on va attaquer tout de suite avec la première partie de la question. Donc déjà, c'est très important de savoir qu'effectivement, la plupart des personnes qui apprennent des langues étrangères vont avoir beaucoup d'évolution, on va dire une grande évolution du début jusqu'au plateau intermédiaire. C'est la partie la plus simple, entre guillemets, puisque tout est nouveau et donc c'est assez facile de voir l'amélioration de ses compétences linguistiques à ce stade. Mais par contre, quand on arrive au stade intermédiaire, eh bien il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à atteindre un stade avancé. C'est vraiment un plateau qui est compliqué à dépasser si on n'utilise pas les bonnes techniques, les bons exercices, si on n'a pas la bonne mentalité. Et c'est vrai que ça peut être quelque chose qui va faire probablement baisser la motivation de beaucoup de personnes qui vont voir que le progrès n'avance plus beaucoup, on stagne, on devient un petit peu fossile. D'ailleurs, c'est un terme qui est utilisé quand on a ce problème. On parle de fossilization. Et en fait, c'est vrai, ça veut dire qu'on stagne, on est immobile, on n'avance plus, on ne s'améliore plus. Alors, comment faire pour remédier à ce problème ? Eh bien, dans un premier temps, comme toute autre chose, il faut analyser le problème, trouver la cause. Et bien souvent, la cause, alors il y a plusieurs facteurs, mais la cause la plus commune de ce blocage entre le stade intermédiaire et le stade avancé, c'est tout simplement le confort. En fait, quand on arrive à un stade intermédiaire, on se rend compte qu'on peut avoir des conversations normales sur des sujets divers et c'est suffisant pour pouvoir communiquer dans la langue qu'on apprend. Et donc, la plupart du temps, eh bien, on n'arrive plus à sortir de cette zone de confort, on se repose sur nos connaissances actuelles et on oublie finalement de continuer à progresser. Notre cerveau, en fait, est conscient qu'il a suffisamment de connaissances pour voyager, pour se débrouiller avec la langue qu'on apprend, et donc on a tendance à arrêter le progrès ici. Et donc ça va être important de trouver des techniques, des méthodes pour sortir de sa zone de confort. Maintenant qu'on a pris conscience que notre niveau n'est pas encore à un stade maximal, d'ailleurs, spoiler, on n'a jamais un niveau maximum dans une langue, il y a toujours des choses à apprendre, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est toujours pas à un stade avancé pour vraiment être satisfait à 100% de son niveau. Et donc, quand on a réussi à prendre conscience de ça, on est prêt à franchir le cap, à dépasser ses limites. Maintenant, il y a autre chose à mentionner, et ça c'est très important. On parle de niveau intermédiaire, avancé, et avant ça, il y a le niveau débutant. Ces niveaux, en fait, c'est des choses qui ont été inventées, d'accord ? Souvent, on utilise les termes A1, A2, B1, B2, C1, C2. Et ça, c'est quelque chose qui a été inventé par le CEFR, le CEFR, donc c'est le Common European... comment ça s'appelle déjà ? Je ne me rappelle jamais parce que je n'aime pas ce truc-là, mais c'est le... Ah oui, Common European Framework of Reference for Languages, donc c'est CEFRL. Donc ça, c'est des choses qui ont été inventées en fait pour un petit peu, si vous voulez, savoir comment situer les capacités de quelqu'un, situer quelqu'un dans des catégories, dans des cases. Mais en fait, il y a quelque chose qui est très important à mentionner, c'est que une langue, ce n'est pas une matière académique. On ne peut pas apprendre une langue comme on apprend les sciences, les mathématiques, l'histoire. C'est complètement différent. C'est une compétence de communication. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on utilise beaucoup le terme « acquisition », hein, on parle de « language acquisition », parce qu'en fait, ce n'est pas quelque chose qui devrait s'étudier. Alors, effectivement, on peut étudier une langue, mais ça n'a rien à voir avec parler une langue, d'accord ? On peut étudier une langue si vous voulez être traducteur, si vous voulez être linguiste, faire de la recherche sur les langues. C'est des choses que moi, j'ai fait personnellement en anglais, mais ça ne va pas vous permettre d'être fluent. Ça ne va pas vous permettre de parler la langue couramment. Ce sont deux choses différentes. Donc, pour apprendre une langue, pour l'acquérir, eh bien, il va falloir utiliser des choses qui ne sont pas des choses proposées à l'école, malheureusement. Dans beaucoup d'écoles de langue, que ce soit l'école publique, l'école privée, peu importe, malheureusement, il y a encore beaucoup trop de méthodes qui ne fonctionnent pas, et notamment la grammaire. On nous rabâche des choses, on essaye de nous faire apprendre, mémoriser des règles de grammaire qui ne servent à rien, puisque finalement, quand vous demandez à un natif dans la rue de vous expliquer des règles de grammaire, bah, la probabilité va être que cette personne ne va pas pouvoir vous expliquer les règles. Et pourtant, c'est une personne native qui parle la langue que vous voulez apprendre d'une manière quasi parfaite. Parfaite, en tout cas vue par beaucoup d'autres personnes. Mais ça ne veut pas dire que cette personne va être capable d'expliquer comment la langue fonctionne. D'accord ? Ce sont deux choses différentes. Et ça, c'est le rôle justement d'un linguiste, pardon, qui étudie la langue. Nous, ça ne nous intéresse pas. On est là pour apprendre à parler la langue et à être de bons parlants, d'accord ? Et d'ailleurs, si vous penchez par exemple sur des examens, par exemple le IELTS, donc ça c'est un examen très connu en ce moment, le IELTS, et si vous regardez les chiffres, les statistiques, parce que je vous rappelle que c'est public, vous pouvez avoir accès aux résultats, eh bien, donc là, j'ai pas les numéros sous les yeux, mais je crois que les anglophones, donc des natifs qui ont besoin de passer cet examen pour des raisons professionnelles, par exemple, eh bien, le score moyen à cet examen est de moins de 7 sur 10, si je dis pas de bêtises. Donc, ça veut dire que même des natifs n'arrivent pas à avoir 10 sur 10, tout simplement parce que ce sont des choses différentes. Ça ne veut pas dire... En fait, un examen, c'est quelque chose d'académique. Moi, j'irais encore plus loin, je dirais que pour avoir un examen, vous n'avez pas besoin de parler la langue. Un examen, c'est quelque chose de technique, de stratégique, qui se prépare, d'accord ? Et vous pouvez avoir un niveau correct dans une langue et pourtant avoir un examen très difficile qui va vous donner un niveau, si on se réfère au CEFR, eh bien, ça va vous donner sur le papier un niveau incroyable, très proche d'un natif, C1 ou C2. Mais ça ne veut pas dire pourtant que vous parlez la langue régulièrement, en tout cas confortablement. Donc, ce sont des choses différentes. Il faut vraiment penser à ça, c'est très important. Faut pas vous stresser parce que vous vous dites « Ouais, j'ai un copain, il a le C1 en anglais. » Voilà, ça ne veut rien dire. Peut-être que vous avez un meilleur anglais que lui parce que vous regardez Netflix tous les jours et que vous apprenez de l'anglais en contexte, en immersion. Donc ça ne veut absolument rien dire d'avoir un examen. Moi, c'est pour ça que je n'aime pas les examens, d'accord ? Je comprends que pour certaines personnes, dans la vie professionnelle, eh ben, on a besoin de ces examens, parce que c'est quelque chose qui est requis par son employeur. Mais personnellement, je n'aime pas ces examens. Je trouve que c'est inutile et ça ne reflète pas du tout le niveau qu'on a dans une langue quand il s'agit de la parler. Donc finalement, je m'égare un petit peu, mais ce que je veux dire, c'est que pour passer d'un niveau intermédiaire à un niveau avancé, bah déjà, il faut savoir le définir. Ne vous focalisez pas sur les choses qui ont été établies par le CEFR, d'accord ? Ça ne représente pas votre niveau de fluidité dans une langue, d'accord ? Donc, pour passer ce cap, on va dire, pour passer ce plateau, eh bien, en fait, il faut commencer par analyser ces problèmes. Donc, vous allez prendre une feuille de papier, et vous allez penser à votre niveau de langue. Donc, je vais prendre l'anglais, par exemple. Donc, vous êtes en train d'apprendre l'anglais et vous prenez une feuille de papier et vous pensez à vos problèmes récurrents. Donc, ça peut être, par exemple, les conditionnels. Vous vous dites, voilà, le conditionnel, c'est vrai que je ne sais pas l'utiliser. Vous écrivez conditionnel. Ensuite, vous dites, oui, mon accent, enfin, ma prononciation, plutôt, sur le TH, par exemple, pour faire le son TH. Et le son the, ça dépend dans quel contexte on l'utilise. Donc le TH, comment le prononcer ? Il faut que je m'entraîne là-dessus. Vous analysez vos problèmes, vous marquez tout sur une feuille de papier. Et ça va vous aider justement à trouver les bons exercices qui vont solliciter ces choses dont vous avez besoin de pratiquer. Et à partir de là, vous allez pouvoir justement sortir de votre zone de confort et insister sur vos points faibles. Parce que finalement, quand on arrive à un stade intermédiaire, on a tendance automatiquement à utiliser les choses qu'on connaît déjà. Parce qu'on se sent à l'aise, on se dit voilà, ça je sais le dire de cette manière, mais est-ce que il y en a beaucoup, j'imagine qu'il y en a très peu d'entre vous qui, par exemple, se rendent compte qu'ils utilisent toujours le même mot pour dire quelque chose, mais je suis sûr qu'il y a un très faible pourcentage de personnes qui ont pris la peine d'aller voir un dictionnaire, un thesaurus par exemple, pour chercher un synonyme, pour enrichir son vocabulaire. Soyez honnête, je pense qu'il y a vraiment très peu de personnes qui ont fait ça. Et c'est là, en fait, qui est le problème. C'est ça qui fait toute la différence. Il va falloir être curieux, sortir des sentiers battus, sortir de sa zone de confort. Il va falloir utiliser des systèmes de spaced repetitions, par exemple, avec des applications comme Quizlet, comme Anki. Il va falloir travailler régulièrement. C'est ça le plus important, il faut être régulier. Donc, si vous voyez que vous avez des problèmes, eh bien, il faut viser ces problèmes, il faut les cibler. Donc, par exemple, vous voulez travailler votre prononciation, eh bien, vous allez prendre une vidéo, vous allez faire du shadowing, vous allez prendre des extraits d'un film et vous allez répéter les phrases d'un natif. Vous avez des problèmes de conditionnel, eh bien, c'est le moment d'aller voir un peu de grammaire. C'est là que c'est intéressant d'apprendre de la grammaire. Quand vous voyez qu'en contexte, vous avez un problème, par exemple, avec les conditionnels dans une conversation, eh bien, quand vous rentrez chez vous, vous allez sur Google, vous tapez « conditionnel » et vous regardez un petit peu comment ça marche. Là, au moins, vous avez un objectif. Vous apprenez une règle grammaticale parce qu'elle vous intéresse, parce que vous allez l'utiliser. Et là, c'est intéressant. Mais vous savez, au final, quelle est la différence entre quelqu'un qui a un niveau intermédiaire et quelqu'un qui a un niveau avancé ? Bah, principalement, ça ne va pas être la grammaire, ça va être le vocabulaire, ça va être la façon de dire les choses. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un niveau intermédiaire va pouvoir avoir une conversation normale, sans trop de problèmes. Par contre, son niveau de vocabulaire et ses structures de phrases, on va dire, ses tournures de phrases, vont être assez limitées et ça va être redondant. C'est-à-dire qu'il va se répéter, il va toujours utiliser les mêmes termes, etc. Par contre, quelqu'un qui a un niveau avancé, eh bien, il va pouvoir maîtriser plusieurs registres, donc un registre formel, un registre familier, il va pouvoir commencer à blaguer dans la langue, il va se sentir beaucoup plus à l'aise et il va pouvoir se sentir aussi beaucoup plus lui-même. Il va plus avoir cette barrière de la langue pour montrer aux autres sa vraie personnalité. Et il va évidemment avoir un vocabulaire plus élevé, plus important, des synonymes, pour essayer de varier un petit peu sa façon de parler. C'est ça en fait la principale différence entre quelqu'un d'intermédiaire et quelqu'un d'avancé. Et donc quand vous avez un niveau intermédiaire, bah, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un niveau avancé ? Bah, s'il s'agit d'avoir un meilleur vocabulaire et une meilleure fluidité, eh bien, il suffit de consommer énormément la langue. C'est-à-dire que vous allez regarder énormément de vidéos, vous allez écouter la langue avec la radio, des podcasts, etc. Vous allez lire, vous allez écrire tous les mots de vocabulaire que vous apprenez et les enregistrer dans votre application Anki, Mosalingua, Quizlet, peu importe. Et vous allez réviser tout ça et vous allez surtout mettre toute cette théorie en pratique. Parce que oui, quand vous passez votre permis de conduire, eh bien, vous êtes obligé de prendre des cours de conduite. Vous êtes obligé d'être derrière le volant et de conduire, d'accord ? C'est pas en apprenant de la théorie que vous allez pouvoir conduire, d'accord ? Ça s'arrête pas là. Donc, apprendre une langue, c'est la même chose. Il va falloir la pratiquer. Il va falloir parler, il va falloir écrire, il va falloir penser dans la langue. Et vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour faire ça. Vous pouvez vous parler à vous-même. C'est un style de vie. Il faut se forcer, il faut sortir de sa zone de confort. Vous pouvez toujours parler à vous-même. Ou alors, il y a une autre stratégie maintenant, en 2020, que vous pouvez faire, et c'est quelque chose que j'utilise moi-même. Vous achetez un Google Mini, un Google Home ou quelque chose comme ça, ou un Alexa ou peu importe, et vous parlez avec votre assistant. Si votre assistant reconnaît votre voix, c'est que vous avez une bonne prononciation déjà. Donc vous pouvez avoir des conversations avec votre assistant vocal, et ça va déjà vous aider à pratiquer votre prononciation, utiliser des nouveaux mots de vocabulaire en contexte, etc. Donc, il n'y a vraiment aucune excuse. Ne me dites pas que vous aimeriez bien le faire, mais vous n'avez aucune personne pour pratiquer la langue, etc. Ça, c'est une excuse. Ne vous trouvez pas des excuses. Il y a toujours des possibilités. Il y a toujours des exercices à mettre en place. Maintenant, je ne vais pas vous mentir, pour passer du stade intermédiaire au stade avancé, ça va prendre énormément de temps. Ça va prendre plus de temps que de passer d'un stade débutant à un stade intermédiaire. Parce que, encore une fois, quand vous commencez, vous voyez des résultats rapidement. C'est très facile puisque tout est nouveau et vous apprenez chaque jour des tonnes et des tonnes de choses. Par contre, quand vous arrivez à ce stade intermédiaire où vous pouvez avoir une conversation normale sans trop de problèmes, eh bien justement, ça devient plus compliqué déjà de voir l'évolution, on va dire, de votre niveau, puisqu'en fait, il va s'agir plutôt de quelques tournures de phrases, des structures, améliorer un peu votre accent, améliorer votre syntaxe, apprendre des nouveaux mots, donc améliorer votre vocabulaire. Mais c'est des choses qui sont beaucoup moins visuelles en termes d'amélioration. Et donc, c'est un peu plus frustrant parce que vous avez l'impression que vous stagnez, mais vous continuez finalement d'apprendre quand même des choses. D'accord ? Donc, il ne faut pas être impatient. Le problème d'aujourd'hui, c'est que on a tendance à être très impatient, surtout parce que vous voyez beaucoup de choses mensongères, comme par exemple des programmes que vous pouvez trouver sur Internet qui vont vous dire « apprendre le chinois en 3 mois ». Honnêtement, ce sont des choses qu'il ne faut pas croire. Parce que apprendre une langue, ça prend des années, d'accord ? Honnêtement, si vous voyez quelqu'un qui vous dit « moi, j'ai acheté un programme et j'ai appris le russe en 2 mois ou 3 mois ou même 6 mois », honnêtement, c'est un mensonge. C'est pas possible, d'accord ? Vous pouvez réussir à avoir un niveau conversationnel, mais pour maîtriser une langue, aller vraiment dans les profondeurs de la langue, il va vous falloir beaucoup plus de temps, beaucoup plus de pratique et beaucoup plus de motivation et de régularité, d'accord ? Et d'ailleurs, en parlant de ce sujet de temps d'études, encore une fois, méfiez-vous, parce que quelqu'un qui vous dit « ça fait 5 ans que j'étudie le russe », par exemple, ça veut rien dire, on ne peut pas parler en années, d'accord ? Parce que combien d'heures de cours a cette personne toutes les semaines ? D'accord ? Il y a une différence. Si quelqu'un vous dit « ça fait 5 ans que j'étudie le russe à raison de 3 heures par semaine », ça va être différent, il va avoir un niveau différent qu'une personne qui étudie le russe à niveau d'une heure par semaine, par exemple. Vous voyez, il travaille 3 fois moins et pourtant ça fait quand même 5 ans qu'il étudie la même langue. Donc, c'est des choses vraiment, il faut vraiment se méfier de toutes ces choses, d'accord ? Il ne faut pas mesurer ça en années, mais plutôt vraiment en heures de pratique, d'accord ? Ça fait vraiment une grande différence. Moi, par exemple, si je prends l'espagnol dans mon cas, finalement, comme je vis en Espagne, on peut dire que j'ai quand même beaucoup plus de pratique que quelqu'un qui a étudié l'espagnol pendant 4 ans à raison d'une heure par semaine avec un professeur particulier. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de l'immersion. C'est un des avantages de l'immersion, c'est que vous êtes en contact avec la langue beaucoup plus fréquemment, beaucoup plus régulièrement, et ça vous permet justement d'évoluer plus rapidement. Mais encore une fois, ça c'est un autre sujet dont je parlerai dans de futurs épisodes. En tout cas, je vais arrêter là parce que ça fait déjà 18 minutes, j'ai pas envie que ce soit trop long. J'espère que j'ai réussi à répondre à ta question, Paola. Merci de me les avoir posées. Si vous aussi, vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit sur Twitter, Instagram ou même par email. Vous avez tous les liens dans la description de chacun de mes épisodes et je répondrai à vos questions avec grand plaisir. Voilà, en tout cas, je vous dis à la prochaine. Et continuez à pratiquer vos langues, tout simplement. Allez, salut !